Chapitre 3. Aucun homme ne passerait brusquement de la Sibérie au Sénégal sans perdre connaissance. Humboldt. L'évanouissement d'un homme, même le plus ferme et le plus énergique, sous un brusque coup de massue de la fortune, n'a rien qui doive surprendre. Un homme s'assomme par l'imprévu, comme un bœuf par le merlin. François d'Albescola, le même qui arrachait aux ports turcs leurs chaînes de fer, demeura, quand on le fit pape, un jour entier sans connaissance. Or, du cardinal au pape, l'enjambée est moindre que du saltimbanque au père d'Angleterre. Rien de violent comme les ruptures d'équilibre. Quand Gwynplaine revint à lui et rouvrit les yeux, il était nuit. Gwynplaine était dans un fauteuil, au milieu d'une vaste chambre, toute tendue de velours pourpre, murs, plafond et plancher. On marchait sur du velours. Près de lui se tenait debout, tête nue, l'homme au gros ventre et au manteau de voyage qui était sorti de derrière un pilier dans la cave de Southwark. Gwynplaine était seul dans cette chambre avec cet homme. De son fauteuil, en étendant le bras, il pouvait toucher deux tables, portant chacune une girandole de 6 chandelles de cire allumée. Sur l'une de ces tables, il y avait des papiers et une cassette. Sur l'autre, un encas, volaille froide, vin, brandy, servi sur un plateau de vermeil. Par le vitrage d'une longue fenêtre allant du plancher au plafond, un clair ciel nocturne d'avril faisait entrevoir au dehors un demi-cercle de colonnes autour d'une cour d'honneur fermée d'un portail à 3 portes, une fort large et 2 basses. La porte cochère, très grande, au milieu. À droite, la porte chevalière moindre. À gauche, la porte piétonne petite. Et ces portes étaient fermées de grilles dont les pointes brillaient. Une haute sculpture couronnait la porte centrale. Les colonnes étaient probablement en marbre blanc, ainsi que le pavage de la cour, qui faisait un effet de neige et qui encadrait de sa nappe de lames plates une mosaïque confusément distincte dans l'ombre. Cette mosaïque, sans doute, vu le jour, eût offert au regard, avec tous ses émaux et toutes ses couleurs, un gigantesque blason, selon la mode florentine. Des zigzags de balustres montaient et descendaient, indiquant des escaliers de terrasse. Au-dessus de la cour se dressait une immense architecture brumeuse et vague à cause de la nuit. Des intervalles de ciel, plein d'étoiles, découpait une silhouette de palais. On apercevait un toit démesuré, des pignons à volutes, des mansardes à visières comme des casques, des cheminées pareilles à des tours, et des entablements couverts de dieux et de déesses immobiles. À travers la colonnade jaillissait dans la pénombre une de ces fontaines de féerie, doucement bruyantes, qui se verse de vasque en vasque, mêle la pluie à la cascade, ressemblent à une dispersion d'écrins, et font au vent une folle distribution de leurs diamants et de leurs perles, comme pour désennuyer les statues qui les entourent. De longues rangées de fenêtres se profilaient, séparées par des panoplies en rondes bosses, et par des bustes sur des pieds-douches. Sur les acrotères, des trophées et des morions à panache de pierre alternaient avec les dieux. Dans la chambre où était Gwynplaine, au fond, en face de la fenêtre, on voyait d'un côté une cheminée aussi haute que la muraille, et de l'autre, sous un de ces spacieux lits féodaux où l'on monte avec une échelle et où l'on peut se coucher en travers. L'escabeau du lit était à côté. Un rang de fauteuils au bas des murs et un rang de chaises en avant des fauteuils complétaient l'ameublement. Le plafond était de forme timbon. Un grand feu de bois à la française flambait dans la cheminée. À la richesse des flammes et à leurs stries roses et vertes, un connaisseur eût constaté que ce feu était de bois de frêne. Très grand luxe. La chambre était si grande que les deux girandoles la laissaient obscure. Çà et là, des portières, baissées et flottantes, indiquaient des communications avec d'autres chambres. Cet ensemble avait l'aspect carré et massif du temps de Jacques Ier, mode vieillie et superbe. Comme le tapis et la tenture de la chambre, le dais, le baldaquin, le lit, l'escabeau, les rideaux, la cheminée, les housses des tables, les fauteuils, les chaises, tout était velours cramoisi. Pas d'or, si ce n'est au plafond. Là, à égale distance des quatre angles, luisait, appliqué à plat, un énorme bouclier rond de métal repoussé, où étincelait un éblouissant relief d'armoiries. Dans ces armoiries, sur deux blasons accostés, on distinguait un tortil de baron et une couronne de marquis. Était-ce du cuivre doré, était-ce du vermeil? On ne savait. Cela semblait de l'or. Et au centre de ce plafond seigneurial, magnifique ciel obscur, ce flamboyant écusson avait le sombre resplendissement d'un soleil dans de la nuit. Un homme sauvage, dans lequel est amalgamé un homme libre, est à peu près aussi inquiet dans un palais que dans une prison. Ce lieu superbe était troublant. Toute magnificence dégage de l'effroi. Quel pouvait être l'habitant de cette demeure auguste? À quel colosse toute cette grandeur appartenait-elle? De quel lion ce palais était-il l'antre? Gwynplaine, encore mal éveillé, avait le cœur serré. « Où est-ce que je suis ? » dit-il. L'homme qui était debout devant lui répondit « Vous êtes dans votre maison, milord. » Chapitre 4. Fascination. Il faut du temps pour revenir à la surface. Gwynplaine avait été jeté au fond de la stupéfaction. On ne prend pas tout de suite pied dans l'inconnu. Il y a des déroutes d'idées comme il y a des déroutes d'armées. Le ralliement ne se fait point immédiatement. On se sent en quelque sorte épars. On assiste à une bizarre dissipation de soi-même. Dieu est le bras, le hasard est la fronde, l'homme est le caillou. Résistez donc, une fois lancé. Gwynplaine, quand nous passe le mot, ricochait d'un étonnement sur l'autre. Après la lettre d'amour de la duchesse, la révélation de la cave de Southwark. Dans une destinée, quand l'inattendu commence, préparez-vous à ceci. Coup sur coup. Cette farouche porte, une fois ouverte, les surprises s'y précipitent. La brèche faite à votre mur, le pêle-mêle des événements s'y engouffre. L'extraordinaire ne vient pas pour une fois. L'extraordinaire, c'est une obscurité. Cette obscurité était sur Gwynplaine. Ce qui lui arrivait lui semblait inintelligible. Il percevait tout à travers ce brouillard qu'une commotion profonde laisse dans l'intelligence, comme la poussière d'un écroulement. La secousse avait été de fond en comble. Rien de net ne s'offrait à lui. Pourtant, la transparence se rétablit toujours peu à peu. La poussière tombe. D'instant en instant, la densité de l'étonnement décroît. Gwynplaine était comme quelqu'un qui aurait l'œil ouvert et fixe dans un songe et qui tâcherait de voir ce qu'il y a dedans. Il décomposait ce nuage, puis le recomposait. Il avait des intermittences d'égarement. Il subissait cette oscillation de l'esprit dans l'imprévu, laquelle, tour à tour, vous pousse du côté où l'on comprend, puis vous ramène du côté où l'on ne comprend plus. À qui n'est-il pas arrivé d'avoir ce balancier dans le cerveau? Par degrés, la dilatation se faisait en sa pensée, dans les ténèbres de l'incident, comme elle s'était faite en sa pupille. Par degrés, la dilatation se faisait en sa pensée, dans les ténèbres de l'incident, comme elle s'était faite en sa pupille dans les ténèbres du souterrain de Southwark. Le difficile, c'était de parvenir à mettre un certain espacement entre tant de sensations accumulées. Pour que cette combustion des idées troubles, dite compréhension, puisse s'opérer, il faut de l'air entre les émotions. Ici, l'air manquait. L'événement, pour ainsi dire, n'était pas respirable. En entrant dans la terrifiante cave de Southwark, Gwynplaine s'était attendu au carcan du forçat. On lui avait mis sur la tête la couronne de pair. Comment était-ce possible? Il n'y avait point assez de place entre ce que Gwynplaine avait redouté et ce qui lui arrivait. Cela s'était succédé trop vite. Son effroi se changeait en autre chose, trop brusquement pour que ce fût clair. Les deux contrastes étaient trop serrés l'un contre l'autre. Gwynplaine faisait effort pour retirer son esprit de cet étau. Il se taisait. C'est l'instinct des grandes stupeurs qui sont sur la défensive plus qu'on ne croit. Qui ne dit rien, fait face à tout. Un mot qui vous échappe, saisi par l'engrenage inconnu, peut vous tirer tout entier sous on ne sait quelle roue. L'écrasement, c'est la peur des petits. La foule craint toujours qu'on ne lui mette le pied dessus. Or, Gwynplaine avait été de la foule bien longtemps. Un état singulier de l'inquiétude humaine se traduit par ce mot « voir venir ». Gwynplaine était dans cet état. On ne se sent pas encore en équilibre avec une situation qui surgit. On surveille quelque chose qui doit avoir une suite. On est vaguement attentif. On voit venir. Quoi? On ne sait. Qui? On regarde. L'homme au gros ventre répéta. Vous êtes dans votre maison, milord. Gwynplaine se tâta. Dans les surprises, on regarde pour s'assurer que les choses existent, puis on se tâte pour s'assurer qu'on existe soi-même. C'était bien à lui qu'on parlait, mais lui-même était autre. Il n'avait plus son capingot et son esclavine de cuir. Il avait un gilet de drap d'argent et un habit de satin. Quand, le touchant, il sentait broder. Il sentait une grosse bourse pleine dans la poche du gilet. Un large haut de chausses de velours recouvrait son étroite culotte collante de clown. Il avait des souliers à haut talon rouge. De même qu'on l'avait transporté dans ce palais, on lui avait changé ses vêtements. L'homme reprit. « Que votre seigneurie daigne se souvenir de ceci. C'est moi qui me nomme Barkilphedro. Je suis clerc de l'amirauté. C'est moi qui ai ouvert la gourde de Hardquanonne et qui en ai fait sortir votre destinée. Ainsi, dans les contes arabes, un pêcheur fait sortir d'une bouteille un géant. » Gwynplaine fixa ses yeux sur le visage souriant qui lui parlait. Barkilphedro continua. « Outre ce palais, milord, vous avez Hunkerville House, qui est plus grand. Vous avez Cloncharlie Castle, où est assise votre pairie, et qui est une forteresse du temps d'Édouard le Vieux. Vous avez 19 baillis à vous, avec leur village et leurs paysans. Ce qui met sous votre bannière de lord et de nobleman environ 80 000 vassaux et fils câlins. À Cloncharlie, vous êtes juge, juge de tout, des biens et des personnes, et vous tenez votre cour de baron. Le roi n'a de plus que vous que le droit de frapper monnaie. Le roi, que la loi normande qualifie chief senior, a justice, cour et coin. coin, c'est monnaie. À cela près, vous êtes roi dans votre seigneurie, comme lui dans son royaume. Vous avez droit, comme baron, à un gibet de 4 piliers en Angleterre, et comme marquis, à une potence de 7 poteaux en Sicile. La justice du simple seigneur ayant 2 piliers, celle du châtelain 3 et celle du duc 8. Vous êtes qualifié prince dans les anciennes chartres de Northumbre. Vous êtes allié au vicomte Valencia en Irlande, qui sont Power, et au comte Dumfrieville en Écosse, qui sont Angus. Vous êtes chef de clan comme Cromwell, Hardmonack et MacCallummore. Vous avez 8 châtelnies, Reculver, Buxton, Helkerters, Homble, Morecambe, Cromdwes, Trenwardwes et d'autres. Vous avez un droit sur les tourbières de Philinmore et sur les carrières d'albâtre de Trent. De plus, vous avez tout le pays de Penéchaise et vous avez une montagne avec une ancienne ville qui est dessus. La ville s'appelle Vinecanton. La montagne s'appelle Moylhundy. Tout cela vous fait un revenu de 40 000 livres sterling, c'est-à-dire 40 fois les 25 000 francs de rente dont se contente un Français. Pendant que Barkilphedro parlait, Gwynplaine, dans un crescendo de stupeur, se souvenait. Le souvenir est un engloutissement qu'un mot peut remuer jusqu'au fond. Tous ces noms prononcés par Barkilphedro, Gwynplaine les connaissait. Ils étaient inscrits aux dernières lignes de ces 2 placards qui tapissaient la cahute où s'était écoulée son enfance. Et, à force d'y avoir laissé machinalement errer ses yeux, il les savait par cœur. En arrivant, orphelin abandonné, dans la baraque roulante de Weymouth, il y avait trouvé son héritage inventorié qui l'attendait. Et le matin, quand le pauvre petit s'éveillait, la première chose qu'épelait son regard, insouciant et distrait, c'était sa seigneurie et sa pairie. Détail étrange qui s'ajoutait à toutes ses surprises. Pendant 15 ans, rôdant de carrefour en carrefour, clown d'un tréteau nomade, gagnant son pain au jour le jour, ramassant des liards et vivant de miettes, il avait voyagé avec sa fortune affichée sur sa misère. Barkilphedro toucha de l'index la cassette qui était sur la table. « Milord, cette cassette contient 2 000 guinées que sa gracieuse majesté la reine vous envoie pour vos premiers besoins. » Gwynplaine fit un mouvement. « Ce sera pour mon père Ursus, » dit-il. « Soit, milord, » fit Barkilphedro. « Ursus, Aline Tedcaster. » Le sergent de la coiffe, qui nous a accompagnés jusqu'ici et qui va repartir tout à l'heure, les lui portera. « Peut-être irai-je à Londres. En ce cas, ce serait moi. Je m'en charge. »« Je les lui porterai moi-même, » répartit Gwynplaine. Barkilphedro cessa de sourire et dit « Impossible. » Il y a une inflexion de voix qui souligne. Barkilphedro eut cet accent. Il s'arrêta comme pour mettre un point après le mot qu'il venait de dire. Puis il continua, avec ce ton respectueux et particulier du valet qui se sent le maître. « Milord, vous êtes ici à 23 miles de Londres, Corleone Lodge, dans votre résidence de cour, contiguë au château royal de Windsor. Vous y êtes sans que personne le sache. » Vous y avez été transporté dans une voiture fermée qui vous attendait à la porte de la geôle de Southwark. Les gens qui vous ont introduit dans ce palais ignorent qui vous êtes, mais me connaissent et cela suffit. Vous avez pu être amené jusqu'à cet appartement au moyen d'une clé secrète que j'ai. Il y a dans la maison des personnes endormies et ce n'est pas l'heure de réveiller les gens. C'est pourquoi nous avons le temps d'une explication. Qui sera courte d'ailleurs, je vais vous la faire. J'ai commission de Sa Majesté. » Barkilphedro se mit à feuilleter, tout en parlant, une liasse de dossiers qui était près de la cassette. « Milord, voici votre patente de père. Voici le brevet de votre marquisat sicilien. Voici les parchemins et diplômes de vos 8 baronnies avec les sceaux de 11 rois, depuis Baldré, roi de Kent, jusqu'à Jacques VI et Ier, roi d'Angleterre et d'Écosse. Voici vos lettres de préséance. Voici vos baux à rente et les titres et descriptions de vos fiefs, alleux, mouvances, pays et domaines. Ce que vous avez au-dessus de votre tête dans ce blason qui est au plafond, ce sont vos deux couronnes, le tortil à perles de baron et le cercle à fleurons de marquis. Ici, côté, dans votre vestiaire, est votre robe de père de velours rouge à bandes d'hermine. Aujourd'hui même, il y a quelques heures, le lord chancelier et le député comte-maréchal d'Angleterre, informés du résultat de votre confrontation avec le comte Prachikos ad Quanon, ont pris les ordres de Sa Majesté. Sa Majesté a signé, selon son bon plaisir, qui est la même chose que la loi. Toutes les formalités sont remplies. Demain, pas plus tard que demain, vous serez admis à la Chambre des Lords. On y délibère depuis quelques jours sur un bill présenté par la couronne ayant pour objet d'augmenter de 100 000 livres sterling, qui sont 2 500 000 livres de France, la dotation annuelle du duc de Cumberland, mari de la reine. Vous pourrez prendre part à la discussion. Barkilphedro s'interrompit, respira lentement et reprit. Pourtant, rien n'est fait encore. On n'est pas pair d'Angleterre malgré soi. Tout peut s'annuler et disparaître, à moins que vous ne compreniez. Un événement qui se dissipe avant d'éclore, cela se voit dans la politique. Milord, le silence, cette heure, est encore sur vous. La Chambre des Lords ne sera mise au fait que demain. Le secret de toute votre affaire a été gardé par raison d'État, laquelle est d'une conséquence tellement considérable que les personnes graves, seules informées en ce moment de votre existence et de vos droits, les oublieront immédiatement si la raison d'État leur commande de les oublier. Ce qui est dans la nuit peut rester dans la nuit. Il est aisé de vous effacer. Cela est d'autant plus facile que vous avez un frère, fils naturel de votre père et d'une femme qui, depuis, pendant l'exil de votre père, a été la maîtresse du roi Charles II, ce qui fait que votre frère est bien en cour. Or, c'est à ce frère, tout bâtard qu'il est, que reviendrait votre péril. Voulez-vous cela? Je ne le suppose pas. Eh bien, tout dépend de vous. Il faut obéir à la reine. Vous ne quitterez cette résidence que demain, dans une voiture de Sa Majesté, et pour aller à la Chambre des Lords. Milord, voulez-vous être pair d'Angleterre, oui ou non? La reine a des vues sur vous. Elle vous destine à une alliance quasi royale. Lord Fermain Clancharlie, ceci est l'instant décisif. Le destin n'ouvre point une porte sans en fermer une autre. Après de certains pas en avant, un pas en arrière n'est plus possible. Qui entre dans la transfiguration a derrière lui un évanouissement. Milord, Gwynplaine est mort, comprenez-vous? Gwynplaine eut un tremblement de la tête aux pieds, puis il se remit. « Oui, dit-il. Barkilphedro sourit, salua, prit la cassette sous son manteau et sortit. Chapitre 5. On croit se souvenir, on oublie. Qu'est-ce que ces étranges changements à vue qui se font dans l'âme humaine? Gwynplaine avait été en même temps enlevé sur un sommet et précipité dans un abîme. Il avait le vertige. Le vertige double, le vertige de l'ascension et le vertige de la chute. Mélange fatal. Il s'était senti monter, et ne s'était pas senti tomber. Voir un nouvel horizon, c'est redoutable. Une perspective, cela donne des conseils, pas toujours bons. Il avait eu devant lui la trouée féerique, piège peut-être, d'un nuage qui se déchire et qui montre le bleu profond, si profond qu'il est obscur. Il était sur la montagne d'où l'on voit les royaumes de la terre. Montagne d'autant plus terrible qu'elle n'existe pas. Ceux qui sont sur cette cime sont dans un rêve. La tentation y est gouffre et si puissante que l'enfer sur ce sommet espère corrompre le paradis et que le diable y apporte Dieu. Fasciner l'éternité, quelle étrange espérance! Là où Satan tente Jésus, comment un homme lutterait-il? Des palais, des châteaux, la puissance, l'opulence, toutes les félicités humaines à perte de vue autour de soi, une map-monde des jouissances étalées à l'horizon, une sorte de géographie radieuse dont on est le centre. Mirage périlleux. Et qu'on se figure le trouble d'une telle vision, pas amenée, sans échelon préalable franchi, sans précaution, sans transition. Un homme qui s'est endormi dans un trou de taupe et qui se réveille sur la pointe du clocher de Strasbourg. C'était Gwynplaine. Le vertige est une espèce de lucidité formidable. Surtout celui qui, vous emportant à la fois vers le jour et vers la nuit, se compose de deux tournoiements en sens inverse. On voit trop et pas assez. On voit tout et rien. On est ce que l'auteur de ce livre a appelé quelque part l'aveugle ébloui. Gwynplaine, resté seul, se mit à marcher à grands pas. Un bouillonnement précède l'explosion. À travers cette agitation, dans cette impossibilité de se tenir en place, il méditait. Ce bouillonnement était une liquidation. Il faisait l'appel de ses souvenirs. Chose surprenante, qu'on ait toujours si bien écouté ce qu'on croit à peine avoir entendu. La déclaration des naufragés, lue par le shérif dans la cave de Southwark, lui revenait parfaitement net et intelligible. Il s'en rappelait chaque mot. Il revoyait dessous toute son enfance. Brusquement, il s'arrêta, les mains derrière le dos, regardant le plafond, le ciel, n'importe, ce qui est en haut. « Revanche !» dit-il. Il fut comme celui qui met sa tête hors de l'eau. Il lui sembla qu'il voyait tout. Le passé, l'avenir, le présent, dans le saisissement d'une clarté subite. Ah ! Cria-t-il, car il y a des cris au fond de la pensée. Ah ! C'était donc cela. J'étais lord. Tout se découvre. Ah ! L'on m'a volé, trahi, perdu, déshérité, abandonné, assassiné. Le cadavre de ma destinée a flotté 15 ans sur la mer, et tout d'un coup il a touché la terre, et il s'est dressé debout et vivant. Je renais, je nais. Je sens bien sous mes haillons palpiter autre chose qu'un misérable. Et quand je me tournais du côté des hommes, je sentais bien qu'ils étaient le troupeau, et que je n'étais pas le chien, mais le berger, pasteur des peuples, conducteur d'hommes, guides et maîtres. C'est là ce qu'étaient mes pères, et ce qu'ils étaient, je le suis. Je suis gentilhomme, et j'ai une épée, je suis baron, et j'ai un casque, je suis marquis, et j'ai un panache, je suis père, et j'ai une couronne. Ah, l'on m'avait pris tout cela. J'étais l'habitant de la lumière, et l'on m'avait fait l'habitant des ténèbres. Ceux qui avaient proscrit le père ont vendu l'enfant. Quand mon père a été mort, ils lui ont retiré de dessous la tête la pierre de l'exil qu'il avait pour oreiller et ils me l'ont mis au cou, et ils m'ont jeté dans l'égout. Oh, ces bandits qui ont torturé mon enfance! Oui, ils remuent et se dressent au plus profond de ma mémoire. Oui, je les revois. J'ai été le morceau de chair becqueté sur une tombe par une troupe de corbeaux. J'ai saigné et crié sous toutes ces silhouettes horribles. Ah, c'est donc là qu'on m'avait précipité, sous l'écrasement de ceux qui vont et viennent, sous le trépignement de tous, au-dessous du dernier dessous du genre humain, plus bas que le cerf, plus bas que le valet, plus bas que le goujat, plus bas que l'esclave, l'endroit où le chaos devient le cloaque, au fond de la disparition. Et c'est de là que je sors, c'est de là que je remonte, c'est de là que je ressuscite, et me voilà, revanche. Il s'assit, se releva, prit sa tête dans ses mains, se remit à marcher, et ce monologue d'une tempête continua en lui. Où suis-je? Sur le sommet. Où est-ce que je viens m'abattre? Sur la cime. Ce fait, la grandeur, ce dôme du monde, la toute-puissance, c'est ma maison. Ce temple en l'air, j'en suis un des dieux. L'inaccessible, j'y loge. Cette hauteur que je regardais d'en bas, et d'où il tombait tant de rayons que j'en fermais les yeux. Cette seigneurie inexpugnable, cette forteresse imprenable des heureux. J'y entre, j'y suis, j'en suis. Ah, tour de roue définitif. J'étais en bas, je suis en haut. En haut, à jamais, me voilà lorde. J'aurai un manteau d'écarlate, j'aurai des fleurons sur la tête, j'assisterai au couronnement des rois. Ils prêteront serment entre mes mains. Je jugerai les ministres et les princes. J'existerai. Des profondeurs où l'on m'avait jeté, je rejaillis jusqu'au zénith. J'ai des palais, des villes et de campagnes, des hôtels, des jardins, des chasses, des forêts, des carrosses, des millions. Je donnerai des fêtes, je ferai des lois. J'aurai le choix des bonheurs et des joies. Et le vagabond Gwynplaine, qui n'avait pas le droit de prendre une fleur dans l'herbe, pourra cueillir les astres dans le ciel. Funèbre rentrée de l'ombre dans une âme. Ainsi s'opérait en ce Gwynplaine qui avait été un héros et qui, disons-le, n'avait peut-être pas cessé de l'être, le grand placement de la grandeur morale par la grandeur matérielle. Transition lugubre, effraction d'une vertu par une troupe de démons qui passent, surprise faite au côté faible de l'homme. Toutes les choses inférieures qu'on appelle supérieures, les ambitions, les volontés louches de l'instinct, les passions, les convoitises, chassées loin de Gwynplaine par l'assainissement du malheur, reprenaient tumultueusement possession de ce généreux cœur. Et à quoi cela avait-il tenu? À la trouvaille d'un parchemin dans une épave charriée par la mer. Le viol d'une conscience par un hasard, cela se voit. Gwynplaine buvait à pleine gorgée l'orgueil, ce qui lui faisait l'âme obscure. Tel est ce vin tragique. Cet étourdissement l'envahissait. Il faisait plus qu'y consentir, il le savourait. Effet d'une longue soif. Est-on complice de la coupe où l'on perd sa raison? Il avait toujours vaguement désiré cela. Il regardait sans cesse du côté des grands. Regardez, c'est souhaité. L'aiglon ne naît pas impunément dans l'air. Être lord. Maintenant, à de certains moments, il trouvait cela tout simple. Peu d'heures s'étaient écoulées, comme le passé d'hier était déjà loin. Gwynplaine avait rencontré l'embuscade du mieux, ennemi du bien. Malheur à celui dont on dit « A-t-il du bonheur ?» on résiste à l'adversité mieux qu'à la prospérité. On se tire de la mauvaise fortune plus entier que de la bonne. Charybde est la misère, mais Scylla est la richesse. Ceux qui se dressaient sous la foudre sont terrassés par l'éblouissement. Toi, qui ne t'étonnais pas du précipice, crains d'être emporté sur les légions d'ailes de la nuée et du songe. L'ascension t'élèvera et t'amoindrira. L'apothéose a une sinistre puissance d'abattre. Se connaître en bonheur, ce n'est pas facile. Le hasard n'est autre chose qu'un déguisement. Rien ne trompe comme ce visage-là. Est-il la providence? Est-il la fatalité? Une clarté peut ne pas être une clarté, car la lumière est vérité et une lueur peut être une perfidie. Vous croyez qu'elle éclaire? Non, elle incendie. Il fait nuit. Une main pose une chandelle. Ville suif devenu étoile au bord d'une ouverture dans les ténèbres. Le phalène y va. Dans quelle mesure est-il responsable? Le regard du feu fascine le phalène, de même que le regard du serpent fascine l'oiseau. Que le phalène et l'oiseau n'aillent point là, cela leur est-il possible? Est-il possible à la feuille de refuser obéissance au vent? Est-il possible à la pierre de refuser obéissance à la gravitation? Questions matérielles qui sont aussi des questions morales. Après la lettre de la duchesse, Gwynplaine s'était redressé. Il y avait en lui de profondes attaches qui avaient résisté. Mais les bourrasques, après avoir épuisé le vent d'un côté de l'horizon, recommencent de l'autre, et la destinée, comme la nature, à ses acharnements. Le premier coup ébranle, le second déracine. Hélas, comment tombent les chaînes? Ainsi, celui qui, enfant de 10 ans, seul sur la falaise de Portland, prêt à livrer bataille, regardait fixement les combattants à qui il allait avoir affaire, la rafale qui emportait le navire où il comptait s'embarquer, le gouffre qui lui dérobait cette planche de salut, le vide béant dont la menace est de reculer, la terre qui lui refusait un abri, le zénith qui lui refusait une étoile, la solitude sans pitié, l'obscurité sans regard, l'océan, le ciel, toutes les violences dans un infini et toutes les énigmes dans l'autre. Celui qui n'avait pas tremblé ni défailli devant l'énormité hostile de l'inconnu, celui qui, tout petit, avait tenu tête à la nuit comme l'ancien Hercule avait tenu tête à la mort, celui qui, dans ce conflit démesuré, avait fait ce défi de mettre toutes les chances contre lui en adoptant un enfant, lui enfant, et en s'embarrassant d'un fardeau, lui fatigué et fragile, rendant ainsi plus facile les morsures à sa faiblesse, et ôtant lui-même les muselières aux monstres de l'ombre embusqués autour de lui. Celui qui, belluaire avant l'âge, avait tout de suite, dès ses premiers pas hors du berceau, pris corps à corps la destinée. Celui que sa disproportion avec la lutte n'avait pas empêché de lutter. Celui qui, voyant tout à coup se faire autour de lui une occultation effrayante du genre humain, avait accepté cette éclipse et continué superbement sa marche. Celui qui avait su avoir froid, avoir soif, avoir faim, vaillamment. Celui qui, pygmé par la stature, avait été colosse par l'âme. Ce Gwynplaine, qui avait vaincu l'immense vent de l'abîme sous sa double forme, tempête et misère, chancelait sous ce souffle une vanité. Ainsi, quand elle a épuisé les détresses, les dénuements, les orages, les rugissements, les catastrophes, les agonies. Sur un homme resté debout, la fatalité se met à sourire, et l'homme, brusquement devenu ivre, trébuche. Le sourire de la fatalité. S'imagine-t-on rien de plus terrible? C'est la dernière ressource de l'impitoyable essayeur d'âmes qui éprouve les hommes. Le tigre, qui est dans le destin, fait parfois patte de velours. Préparation redoutable, douceur hideuse du monstre. La coïncidence d'un affaiblissement avec un agrandissement, tout homme a pu l'observer en soi. Une croissance soudaine disloque et donne la fièvre. Gwynplaine avait dans le cerveau le tourbillonnement vertigineux d'une foule de nouveautés. Tout le clair-obscur de la métamorphose. On ne sait quelles confrontations étranges, le choc du passé contre l'avenir. De Gwynplaine, lui-même double. En arrière, un enfant en guenille, sorti de la nuit, rôdant, grelottant, affamé, faisant rire. En avant, un seigneur éclatant, fastueux, superbe, éblouissant Londres. Il se dépouillait de l'un et s'amalgamait à l'autre. Il sortait du saltimbanque et entrait dans le lord. Changements de peau qui sont parfois des changements d'âme. Par instant, cela ressemblait trop au songe. C'était complexe, mauvais et bon. Il pensait à son père. Chose poignante, un père qui est un inconnu. Il essayait de se le figurer. Il pensait à ce frère dont on venait de lui parler. Ainsi, une famille. Quoi ? Une famille ? À lui, Gwynplaine ? Il se perdait dans des échafaudages fantastiques. Il avait des apparitions de magnificence. Des solennités inconnues s'en allaient en nuages devant lui. Il entendait des fanfares. « Et puis, disait-il, je serai éloquent. » Et il se représentait une entrée splendide à la chambre des lords. Il arrivait, gonflé de choses nouvelles. Que n'avait-il pas à dire ? Quelle provision il avait faite ! Quel avantage d'être au milieu d'eux, l'homme qui a vu, touché, subi, souffert, et de pouvoir leur crier « J'ai été près de tout ce dont vous êtes loin. » À ces patriciens repus d'illusions, il leur jettera la réalité à la face, et ils trembleront, car il sera vrai, et ils applaudiront, car il sera grand. Il surgira parmi ces tout-puissants, plus puissants qu'eux. Il leur apparaîtra comme le porte-flambeau, car il leur montrera la vérité, et comme le porte-glaive, car il leur montrera la justice. Quel triomphe ! Et tout en faisant ces constructions dans son esprit, lucide et trouble à la fois, il avait des mouvements de délire, des accablements dans le premier fauteuil venu, des sortes d'assoupissements, des sursauts. Il allait, venait, regardait le plafond, examinait les couronnes, étudiait vaguement les hiéroglyphes du blason, palpait le velours du mur, remuait les chaises, retournait les parchemins, lisait les noms, épelait les titres, Buxton, Humble, Grumdwess, Hunkerville, Clan Charlie, comparait les cires et les cachets, tâtait les tresses de soie des sceaux royaux, s'approchait de la fenêtre, écoutait le jaillissement de la fontaine, constater les statues, comptait avec une patience de somnambule les colonnes de marbre et disait « Cela est !» Et il touchait son habit de satin et il s'interrogeait « Est-ce que c'est moi ?»« Oui !» Il était en pleine tempête intérieure. Dans cette tourmente, sentit-il sa défaillance et sa fatigue ? But-il ? Mangea-t-il ? Dormit-il ? S'il le fit, ce fut sans le savoir. dans de certaines situations violentes, les instincts se satisfont comme bon leur semble, sans que la pensée s'en mêle. D'ailleurs, sa pensée était moins une pensée qu'une fumée. Au moment où le flamboiement noir de l'éruption se dégorge à travers son puits plein de tourbillons, le cratère a-t-il conscience des troupeaux qui paissent l'herbe au pied de sa montagne? Les heures passèrent. L'aube parut et fit le jour. Un rayon blanc pénétra dans la chambre et en même temps entra dans l'esprit de Gwynplaine. « Edea ! » lui dit la clarté.